Il y a quelques personnes qui ne sont pas encore là. On attend encore Georges Collins, Frédéric Pouillot, théoriquement. Alors, donc c'est une séance dont je veux commencer parce qu'en fait, on n'a pas énormément de temps parce que Bernard Stiegler, que je remercie d'être venu cet après-midi, doit partir à 4h10. Ce qui veut dire qu'on fera notre pause à 4h10. Hein. Alors, le déroulement de la séance, je vais commencer par faire une synthèse de ce qui s'est dit durant les quatre séances précédentes en essayant de vous reformuler, disons, un tout petit peu plus, disons, frontalement ce que pour le moment j'ai présenté sous forme d'une espèce de désossage, en fait, hein, un peu philologique. Et puis ensuite je poserai un certain nombre de questions à mes invités d'aujourd'hui, donc Bernard Stiegler, Marie Meurassiol, et puis également, alors qui est un intervenant, j'allais dire un participant maintenant habituel du séminaire, mais qui aujourd'hui accepte de nous éclairer sur Baudelaire. Voilà, donc il y aura une question après Bernard, je poserai une question à Gabriel sur Baudelaire. Voilà, et on terminera, enfin on terminera la seconde partie de notre séance sur la présentation de Pierre Huyghe, que j'ai invité la semaine prochaine, vous vous en souvenez, hein, enfin la semaine prochaine, la semaine de la rentrée, et donc Marie Meurassiol, qui vient de réaliser pour les cahiers du Musée d'Art Moderne un entretien avec Pierre Huyghe et qui connaît bien son œuvre, va accepter de répondre un peu à mes interrogations, hein, sur cette œuvre, de telle manière que vous y initiez. Donc, je voulais juste repartir d'un point, hein, mais en fait c'est un peu regrettable que Frédéric soit pas là. Donc en fait, ce par quoi je voulais commencer, j'en ferai ma conclusion. Si vous vous souvenez bien de la conclusion à laquelle nous sommes arrivés la dernière fois, hein, parce que je considère que ces quatre premières séances constituent en fait un tout, hein. Nous sommes arrivés à l'idée que cette politique, hein, ou ce que Foucault appelle éthique de l'émancipation ou d'émancipation, est aujourd'hui un enjeu épistémologique, hein, en ce sens que à mon sens, hein, c'était ce que la proposition que j'avais faite, évidemment elle est à discuter, enfin c'est même l'objet du séminaire, hein, ou en tout cas un des horizons possibles du séminaire. À mon sens, si aujourd'hui on peut parler de pratique de liberté, de lutte d'émancipation, etc., leur enjeu n'est pas tant à situer sur le plan de l'individualisation, hein, de ce que Foucault appelle pratique de soi, technique de soi, hein, que sur le plan épistémologique. Et Frédéric Pouillot m'a passé un article extrêmement intéressant, mais peut-être que s'il arrive, on en reparlera avec lui tout à l'heure, d'un certain Stéphane Legrand qui soutient la thèse adverse. Hein, c'est un article finalement qui reste sur des bases assez classiques de politique locale, d'individualisation, etc. Et voilà. En tout cas, cette thèse, comme quoi les luttes actuelles ont pour enjeu des enjeux épistémologiques, c'est-à-dire en fait des enjeux qui se déroulent sur le plan du développement des technosciences ou des technologies contemporaines. Je crois que c'est une thèse que nous partageons en partie avec Bernard Stiegler, hein, et c'est une thèse que Bernard a avancée depuis longtemps à travers notamment son travail et puis de l'œuvre de Simondon, à partir également de sa réinterprétation de Marx, hein, et c'est des choses qui ont été léguées depuis un certain temps par Bernard. Ce sont des choses qui ensuite ont été reprises aussi, ou pas reprises, mais enfin qui ont été développées d'une autre façon par quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent ici, qui est Tom Cohen. Hein, voilà. Donc, voilà. Et donc ça, c'était le premier point. La seconde thèse, c'était l'idée, au fond, que plus précisément, hein, ces enjeux épistémologiques sont des enjeux qui touchent à la question de l'organisation de la mémoire. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à travailler d'une certaine façon autour du problème de la transmission aujourd'hui, Et c'est ce que je voudrais qu'on articule à propos de la pratique artistique et de la façon dont la pratique artistique ou un ensemble de pratiques artistiques contemporaines touche à cette question de l'organisation de la mémoire. Et je vais développer, hein, j'en ai beaucoup parlé déjà la fois dernière et je reprendrai ça tout à l'heure. Alors, ce qui nous est apparu finalement, c'est que ce travail d'émancipation, donc dans un système de production contemporain qui est dominé sur tous les plans, hein, par les technologies d'information communication, comme on dit, c'est-à-dire par toutes les technologies qui, jusqu'aux nanotechnologies, sont des problèmes de gestion de la mémoire, de programmation de la mémoire. Et ma thèse est que ce travail d'émancipation, il passe par un travail sur la matérialité de la mémoire, c'est-à-dire sur la mémoire devenue matériau, hein, matériaux pour la technique, pour la technologie, pour la technoscience. Et au fond, on peut dire que ce qui nous est apparu au cours des séances précédentes, c'est que, au fond, cette matérialité de la mémoire, hein, et du coup cette matérialité de la réflexion elle-même, hein, du processus de la réflexion qui est au cœur du jugement, ce n'est évidemment pas quelque chose de nouveau. Hein, c'est pas la modernité qui a matérialisé la réflexion ou la mémoire. Hein, et ça n'a rien à voir avec le thème du Verfall, hein, heideggerien, ou de la déchéance heideggerienne, hein, mais au contraire, cette matérialité, c'est véritablement un préalable. Et ce préalable, j'en ai beaucoup parlé la dernière fois, en le nommant comme une manière d'extériorité ontologique, qui fait que nous sommes constitués comme des hypothèses de subjectivation. On pourrait dire aussi pré-individuellement, mais j'aime pas beaucoup l'idée du pré-individuel. Nous sommes constitués à la fois pulsionnellement, mais également corporellement, mais également psychiquement, mais également psychosociologiquement, etc., à partir de techniques mémorielles. Et la technoscience contemporaine, elle ne fait jamais qu'actualiser ces techniques qui existent depuis toujours. Hein. C'est-à-dire que déjà, le silex ou le cutter, c'est déjà des techniques mémorielles qui sont des conditions de subjectivation. Moi j'ai beaucoup articulé ces choses à partir de Le Roi Gourand. Je pense que Bernard les a plutôt articulées, enfin aussi Le Roi Gourand, mais beaucoup Simondon. Enfin, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur ces questions-là qui sont assez peu. En fait. Et ce que j'avais dit la fois dernière, et c'était un peu comme ça que je m'étais démarqué de la lecture de Deleuze, puisqu'on avait parlé de cette lecture de Deleuze dans le texte qui s'appelle Les plis et plissements, ou plissements, etc., qui est le dernier texte du Foucault de Deleuze, était de dire qu'au fond, dans la philosophie française du XXe, il y a eu beaucoup une tendance à traiter cette question de l'extériorité, sous la forme de l'excès chez Bataille, sous la forme du dehors chez Blanchot, sous la forme de l'être, évidemment. Hein. Chez Deleuze, on la voit ressurgir, cette idée d'extériorité ontologique, sous le terme de mémoire absolue, qui en réalité reprend le concept kantien de forme du temps. Hein. Moi j'aimerais reprendre cette question de l'extériorité ontologique, débarrassée de tous ces oripeaux, si je puis dire, qui pour moi restent de l'ordre des oripeaux romantiques ou post-romantiques, hein, et qui, à mon avis, restent encore présents chez Deleuze à travers ce qu'il appelle la vie avec un grand V. Hein. Alors je vous renvoie au texte, hein, lisez la fin de ce texte, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il patauge entre Heidegger, Simondon, la vie, hein, Nietzsche, enfin voilà, il y a un flou qui est très intéressant à analyser, à mon avis, pour nous, dans cette critique du romantisme dont nous étions parlé. Et maintenant, ce que je voudrais essayer de vous représenter rapidement, c'est comment nous en sommes arrivés, finalement, à cette proposition de thèse. Comment, partant de Kant et du jugement chez Kant, nous en sommes arrivés à ces questions de technologie de la mémoire comme le plan véritablement où aujourd'hui on peut parler sérieusement de lutte d'émancipation. Alors je vais reprendre finalement ce que je vous ai dit sous la forme de ces deux grandes lignes que j'ai poursuivies sans vous le dire et que j'ai entrecroisées, redémêlées, etc. Il y avait d'une part la ligne des luttes, hein, ce que j'appelle la ligne des luttes, et d'autre part la ligne généalogique. Alors ce que j'appelle la ligne des luttes, c'est une relecture de la modernité kantienne, telle qu'à mon avis elle est opérée par Foucault, à partir de cette figure du pasteur éclairé, figure du pasteur éclairé que Foucault éclaire, analyse ensuite du point de vue de la modernité baudelairienne à partir de la figure du dandy. Donc il y a une espèce d'articulation très apparemment étrange, hein, du pasteur éclairé et du dandy. Et j'aurais même pu, mettre une troisième figure, hein, qui à mon avis est le complément, c'est ce qu'il appelle l'ami, hein, dans la question de la politique de l'amitié, hein, à partir de la question de l'homosexualité. Et je vous conseille de lire un texte qui s'appelle « De l'amitié comme mode de vie », hein, qui est un texte tout à fait intéressant de Foucault, mais moi je préférais ne pas rentrer dans ces histoires d'homosexualité parce que ça nous aurait entraîné tout à fait ailleurs. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'il y avait une cohérence en réalité parfaite, hein, chez Foucault, hein, de ce choix, Kant, Baudelaire et l'ami, de toute façon, puisque l'enjeu de la lutte, hein, l'ennemi si je puis dire, c'est pour Foucault toujours la même politique pastorale, hein, chrétienne, dont il dit qu'elle aurait détourné dès le XVe siècle, en fait, des armes qui avaient été fournies par la culture de soi antique, hein, mais au fin du développement d'une fiction, hein, qui est cette fiction de l'intériorité. Et ce que j'ai essayé de vous montrer progressivement, en essayant de réhistoriciser, hein, l'interprétation de Foucault, hein, c'est que cette articulation Kant-Baudelaire dans Vasista Aufklärung, hein, c'est une relecture donc du pasteur éclairé dont parle Kant dans son propre Vasista Aufklärung à partir du dandy et à partir également de la conception de l'amitié dont Foucault projette la figure. Au fond, hein, ce qui est à mon avis central et ce qui continue à nous servir, hein, c'est la manière dont la critique du sujet dogmatique chez Kant et critique dont l'envers ou l'endroit est la construction d'un sujet critique, hein, elle est analysée par Foucault, à mon avis, tout à fait à bon droit, hein, comme une lutte politique dans la lignée des luttes de la réforme, comme une lutte d'émancipation à l'égard du pouvoir de l'Église, hein, ou plutôt, finalement, à l'égard du fondement de ce pouvoir ecclésial ou pastoral, grâce à l'invention, hein, d'une culture de l'intériorité. Et que, au fond, ce que nous dit Foucault, c'est que Kant, hein, a tout fait à travers sa construction critique et transcendantale pour vider le sujet, ce qui donne effectivement le caractère un peu mécanisme d'horlogerie de sa construction. Mais ce qu'il nous dit finalement, c'est plutôt un sujet en forme d'horloge, d'une certaine façon, hein, en forme de mécanisme d'horlogerie, plutôt un sujet horloge, hein, qu'un sujet catholique, hein, qu'un sujet chrétien, qu'un sujet doté d'une intériorité fictive, si l'on veut penser quelque chose comme l'Aufklärung ou l'émancipation. Et je pense que c'est ça le nœud, en fait, qui n'est jamais exprimé aussi violemment, aussi frontalement, de l'analyse de Foucault. Alors évidemment, à l'époque de Kant déjà, ce pouvoir pastoral, c'est le pouvoir de l'État. Et il le deviendra de plus en plus, évidemment, au XIXe siècle. Et de la même façon, hein, c'est ce qui légitime la généalogie de Foucault, Kant, Baudelaire, hein, ce qu'il montre, c'est que le dandy lutte pour s'émanciper d'un certain positivisme égalitaire, bourgeois, hein, et au fond de ce qui est déjà au XIXe siècle, à l'époque où Baudelaire parle du dandy, de ce qui est déjà, au fond, ce sujet qui est clivé entre sa définition par ce que Foucault appelle la biopolitique, c'est-à-dire en fait les techniques de pouvoir, hein, fondées sur les technologies, hein, donc dépouillées d'une façon privée de la gestion de sa reproduction et à qui l'on invente par mode de compensation, en quelque sorte, une sexualité. Hein, la sexualité arrivant comme un domaine de savoir, un domaine d'investigation et donc du coup un domaine de conscience, hein, au XIXe siècle et prenant le relais de ce qui s'était ce qui avait été vécu à partir du XVe siècle comme une culture de l'intériorité. Et l'ami apparaîtra ensuite à la fin du XXe siècle comme celui qui, à travers l'invention d'un nouveau mode de rapport entre relations sexuelles et relations sociales, lutter contre l'identitarisme sexuel qui apparaît notamment dans la science et notamment dans les culture studies ou les gender studies. Hein. Donc on voit que ces luttes, hein, c'est la lutte du pasteur éclairé, la lutte du dandy, la lutte de l'ami, hein, elles se déroulent toutes sur le terrain de ce que Foucault appelle les techniques de soi. Techniques de soi, c'est-à-dire au fond sur le terrain de l'individualité. Par des méthodes, hein, je n'y reviens pas, d'auto-formation, par des méthodes d'instruction en réalité, hein, dont la visée, hein, dont le but, c'est véritablement de vider l'intériorité, par au fond ce qu'on pourrait appeler des modes d'apprentissage de ce qui nous constitue ontologiquement comme extérieur à nous-mêmes. Et ces techniques, Baudelaire va les définir de deux manières, à la fois comme des techniques du corps et comme des techniques de la mémoire, et je reviendrai sur ce dédoublement plus tard. Alors la seconde piste que j'ai empruntée, c'est ce que j'appelle la ligne généalogique, hein, et qui est une espèce de généalogie conceptuelle qui est extrêmement, disons, précise, hein, qui n'est jamais présentée comme telle, mais qui est extrêmement précise, et qui nous permet de comprendre la façon dont Kant est transmis par Foucault via Baudelaire. Et je voudrais prendre trois concepts majeurs, hein, dont j'ai suivi comme ça le développement: le concept de jugement, le concept de réflexion et le concept de médium de la réflexion. Alors, ce qu'on a vu, c'était la manière dont c'est transmis, finalement, ou dont Foucault, en tout cas, fait comme si c'était transmis, hein, le long de cette chaîne, une seule et même opération, hein, qui est cette opération, alors que j'ai beaucoup commenté, de détournement, hein, de suspension, détournement, retournement. Alors, détournement dans le jugement esthétique du mouvement de l'imagination qui, au lieu de servir au schématisme, hein, est transféré, hein, laisse au fond flotter, hein, ce que Kant appelle la forme indéterminée et la transfère du côté du sujet. Détournement par le pasteur éclairé de l'introspection en dédoublement stratégique, détournement chez le dandy de techniques de pouvoir sur autrui en techniques de pouvoir sur soi, et évidemment détournement dans le travail artistique du Constantin Guy, hein, le fameux peintre moderne, de ce que Baudelaire appelle le respect en viol, c'est-à-dire de ce qui aurait dû être un naturalisme esthétique en hyperréalisme, de ce que j'appellerais, pour aller vite, un hyperréalisme esthétique, mais ça on pourra peut-être en reparler avec Gabriel tout à l'heure. Donc, du jugement kantien à l'imagination baudelairienne, ce qu'on a vu, c'était que c'était toujours le même geste, hein, qui se transmettait. Et évidemment, au XXe siècle, hein, alors, ces techniques de soi, hein, constituent un détournement de techniques chrétiennes, hein, je l'ai déjà dit, de l'intériorité en technique d'apprentissage de l'extériorité à soi-même. Plus fondamentalement encore, hein, c'est cette opération de détournement, Foucault va la théoriser comme une conversion de l'assujettissement en liberté, hein, de ce qu'il appelle les pratiques d'assujettissement en pratiques de liberté. Alors ça, c'était un axe de généalogique. Un deuxième axe était celui qui suivait le concept de réflexion. Là, ce qu'on a vu, c'est la façon dont le concept de réflexion ou la réflexion chez Kant est un exercice transcendantal, hein, qui consiste à ce transfert de l'objet, hein, de ce qui aurait dû aller vers l'objet et qui revient vers le sujet, hein, et que chez Kant, ce transfert reste prescrit par une finalité naturelle. D'accord ? Tandis que chez Baudelaire, eh bien, on se rend compte qu'au fond, cette réflexion ne porte plus finalement sur les facultés, hein, c'est pas une réflexion des facultés, c'est une réflexion de l'action, c'est l'action qui est réfléchissante et non pas le jeu des facultés. Et donc, la réflexion devient un éthos. Et cet éthos, on le voit chez le dandy. Et Cette réflexion, on la voit encore et toujours s'exercer chez Constantin Guy comme une opération qui devient une opération technique, une opération à la fois de répétition et de report ou de transfert. Hein, vous rappelez, transfert du support psychique de la mémoire au support matériel du papier, qui annonce, bien que ce soit chez Baudelaire, qui annonce et qui est déjà de manière cryptée décrit par Baudelaire, en fait, comme le transfert photographique du réel sur la surface impressionnable. Et plus largement, de toutes les opérations de transfert technique. Donc, au fond, ce qui apparaît au 19e, ce qui apparaît progressivement, c'est une espèce de matérialisation de la réflexion qui fait que chez Kant, la réflexion, elle se déroule, on va dire, sub specie aeternitatis, c'est-à-dire de façon complètement dans l'air, on va dire. Tandis que tout d'un coup, avec Baudelaire, on voit apparaître que cette opération de réflexion, c'est un mécanisme matériel. C'est un mécanisme de répétition sur un certain matériau, ce matériau étant la mémoire. Et que, du même coup, elle doit se penser non pas en termes de faculté, cette réflexion, mais elle doit se penser en termes de capacité. Et d'ailleurs, c'est exactement ce mot de capacité qu'emploie Foucault lorsqu'il parle de réflexion de capacité en pouvoir et réflexion de pouvoir en capacité. Au fond, c'est important ce terme de capacité parce qu'on voit qu'on est passé donc de la réflexion des facultés à l'action réfléchissante et à la réflexion des capacités, c'est-à-dire que progressivement on voit la limitation, c'est-à-dire que les luttes, s'il y a lutte d'émancipation, on peut dire que la porte est de plus en plus étroite, elle est certes comprise comme matériel, mais en même temps de plus en plus étroite, puisqu'il ne s'agit jamais que des capacités. On sait bien que nos capacités sont limitées par nos techniques. Donc on est dans une situation de plus en plus limitée. Et troisième axe de la généalogie conceptuelle, qui passait par le concept de médium de la réflexion, dont l'objectif ou la valeur stratégique théoriquement, c'est véritablement de maintenir un écart entre la réflexion et le jugement. Et c'est déjà vrai chez Kant, où déjà l'idée de médium de la réflexion, ça empêche le bouclage de la réflexion au jugement. Et ça introduit un élément extérieur, qui est cette forme indéterminée. Et puis ensuite, chez Baudelaire, cette forme indéterminée, elle apparaît, en réalité, à travers la notion de pratique. Et elle apparaît, cette forme indéterminée devient pratique et elle est analysée par Baudelaire sous la forme, en fait, de l'analyse du travail artistique proprement dit. Ou encore, elle apparaît chez Baudelaire sous la forme de ces pratiques, pratiques logiques, pratiques corporelles ou pratiques mémorielles, mais logiques, méthodiques, techniques, qui sont celles du dandy. Alors, à partir de là, chez Foucault, évidemment, on voit bien, chez Constantin Guy, évidemment, cette technique, oui, j'ai beaucoup insisté, c'est une technique déjà de transmission. Le peintre de la vie moderne, on le plonge dans une centrale électrique, et il en ressort électrifié, si je puis dire, et transmettant, comme une espèce de vecteur de transmission électrique, transmettant cette énergie électrique à sa main et dessinant exactement comme véritablement comme une machine à peindre. Alors, chez Foucault, à l'époque à laquelle parle Foucault, ce médium de la réflexion, c'est toujours la pratique de soi et la production d'un nouveau rapport au plaisir à travers l'invention d'un corps qui est un logos, en fait, ou un corpus. On pourrait dire qu'au fond, du dandy baudelairien à Foucault, et c'est là où j'introduirai un élément de critique, ça ne bouge pas, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le médium de la réflexion, c'est toujours la pratique, et la pratique, ça passe toujours par le corps, mais par le corps, on va dire, coupé de la technique. Alors, Pour moi, et c'était, disons, une proposition de travail, hein, pour moi, il me semble que ce médium de la réflexion, hein, si effectivement la construction kantienne reste finalement toujours une hypothèse intéressante si on veut fonder l'exercice de du jugement aujourd'hui, ce médium de la réflexion prend la forme technologique ou technoscientifique des industries de la mémoire. Donc au fond, le médium de la réflexion, ce sont les techniques qui médiatise le travail de l'imagination et donc le travail de la réflexion. Autrement dit, c'est le support matériel du jugement aujourd'hui. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, disons, sur la base de la construction de ces deux fils de lecture de Foucault, c'était de réinscrire le fil généalogique dans le fil des luttes politiques. C'est de comprendre que, en fait, la construction de Foucault se donne toujours, finalement, se donne ouvertement plus comme une sorte de généalogie philosophique, alors qu'elle ne prend sens que si on la réinscrit dans la ligne des luttes. De telle manière qu'au fond, cette opération du jugement, au lieu de la penser de façon abstraite, apparaissent bien comme un geste d'émancipation et de lutte, qui consiste en fait à détourner des modes d'assujettissement à l'intériorité, et pas des modes d'assujettissement en soi, mais bien à l'intériorité, ce qui n'est pas n'importe quel type de lutte, en pratique de liberté, et pratiques de liberté qui sont interprétées par Foucault comme des luttes d'individualisation. Et c'est pourquoi il pose le jugement comme une activité, dit-il, éthopoétique. Voilà. Bon. Le jugement devient chez Foucault ainsi une éthique. Donc je pense que maintenant c'est à peu près clair. Et au fond, pour moi, c'est une interprétation insuffisante. C'est-à-dire, je pense que c'était sans doute pensable en 1984 et encore. Enfin, en tout cas, c'était la position de Foucault en 1984. Il est sûr que en 2007, il me semble très très difficile de penser que le terrain des luttes contemporaines, c'est toujours cette question de l'individualité ou de l'individualisation. Alors pourquoi ? Et je vais essayer de vous pointer cette faille, la faille qui me semble quand même déjà travailler la construction de Foucault. Parce que je crois qu'il y a une espèce de déchirure dans la construction de Foucault. Il y a une déchirure entre ce que Foucault appelle les techniques de soi et ce qu'il appelle la réflexion des capacités en pouvoir et des pouvoirs en capacité. Et à mon avis, là, il y a quelque chose qui n'est pas véritablement construit. Alors cette déchirure, j'aimerais l'interpréter ou la présenter à partir du lien chez Kant entre le sentiment de respect et le plaisir. Vous vous souvenez, on avait eu une petite discussion il y a 2-3 semaines sur cette question. Moi je tiens beaucoup à insister sur ce rapport entre le sentiment de respect et le plaisir. Alors évidemment, on avait une discussion parce que certains d'entre vous m'avaient dit qu'ils sortaient d'un cours sur Kant, ouais, qui déjà était très savant sur Kant. Il me disait comment, non, pas du tout, le sentiment du respect, c'est lié à l'humiliation. Et il me semble que l'humiliation qui est liée au respect, au sentiment du respect, sentiment du respect éprouvé devant la loi morale en moi, ça n'est une humiliation que pour le sujet dogmatique, qui est au fond celui auquel s'adresse Kant. Et d'une certaine façon, du point de vue duquel Kant écrit sa critique. Mais en réalité, il me semble que ce n'est pas une humiliation pour le sujet critique. Et que, au contraire, ce qu'on voit, c'est que chez Kant, il y a toujours, d'une certaine façon, vraiment une négation déterminée chez Kant de la valeur morale de la souffrance. Je ne dis pas une négation de l'existence de la souffrance, mais de la valeur de la souffrance. Et c'est ce qui fait précisément, d'ailleurs pour moi, l'intérêt de la lecture de Kant par Foucault. C'est que ce que nous dit Foucault de très intéressant à propos de Kant, c'est que la critique kantienne, c'est en réalité une lutte d'émancipation contre le pouvoir pastoral, je l'ai dit, contre ces stratégies d'assujettissement par l'intériorité, par la fiction d'intériorité, et que donc, derrière toute cette critique kantienne, il y a une certaine réflexion sur la question de la souffrance. Évidemment, puisque l'intériorité, c'est la pratique qui va incarner l'intériorité, c'est la confession. C'est donc tout ce qui est lié au, disons, à un certain masochisme moral, à une certaine lutte avec l'idéal, etc. Et donc, Il me semble que chez Kant, au contraire, et le fond de la position kantienne, même si c'est finalement c'est jamais expliqué comme ça, mais c'est exprimé comme ça, parce que chez Kant, il y a une expérience de la joie extrêmement forte qui traverse l'œuvre de Kant, voire même une expérience de l'extase et d'élation. Si vous relisez le texte sur le sublime, c'est évident qu'il y a une expérience très très forte de l'élation chez Kant. Et il me semble que, au fond, si on suit l'interprétation même de Foucault, on ne peut pas penser finalement, au fond, que la figure du dandy puisse être, en réalité, une interprétation de la figure du pasteur éclairé. Pourquoi ? Parce que la figure du dandy, c'est une figure profondément masochiste, et que dans la figure du dandy, il y a un élément de douleur, un élément il y a un masochisme moral, sinon physique. Vous vous souvenez, l'image du dandy, c'est Laocoon qui sourit sous la morsure des serpents, c'est le Spartiate qui est mordu par le renard et qui sourit malgré tout. Donc on voit que il y a l'idée quand même d'une soumission du corps à l'idéal. Donc il y a au fond un masochisme chrétien dans la figure du dandy, qui fait qu'au fond, là, il y a une contradiction chez Foucault. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas pensé, qui est le rapport, qui n'est pas pensé jusqu'au bout. Alors que la figure de l'artiste moderne, à savoir Constantin Guy, on peut dire, en revanche, est une très très bonne, à mon avis, un très bon relais de la figure du pasteur éclairé, d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'artiste moderne se livre, tel que le décrit Baudelaire, véritablement à une lutte objective, avec la matérialité de sa mémoire et avec son désir d'arracher à cette mémoire, cette mémoire psychique, ces traces mnésiques, une mémoire graphique. Et dans ce travail, dans cette méthode, dans cette volonté d'arracher du graphique au mnésique, il n'y a absolument rien d'intérieur. Et donc on est bien plus dans la perspective au contraire, de la culture de l'extériorité antique, d'une certaine façon, de l'extériorisation antique. Au fond, moi je pense que l'idée que pose Foucault dans Vassista Aufklärung de la vie comme œuvre et comme œuvre d'art n'est absolument pas satisfaisante du point de vue même de Foucault, au sens où la technique de soi par laquelle le dandy s'arrache une nouvelle plastique demeure dans une orbite complètement pastorale. En revanche, la notion d'art et d'art moderne, de la modernité de l'art comme technique mémorielle, me semble au contraire parfaitement conforme à la perspective même de Foucault. Et donc je pense que dans le texte de Foucault, il y a un jeu absolument trouble, si je puis dire, entre la figure de l'artiste moderne et la figure du dandy, mais qu'il faut vraiment trancher entre ces deux figures. C'est-à-dire que là, on ne peut pas, à mon avis, surfer sur cette ambiguïté du texte. Voilà. Foucault, d'ailleurs, il voit parfaitement bien ce problème. Il le voit si bien que dans les techniques de soi, les techniques qu'il va véritablement commenter, développer, reprendre pour son propre compte, ce sont les hypomnémata, et donc les techniques de la mémoire. Donc il voit très bien que là, il y a une question. Et vous souvenez bien que ces hypomnémata, ce sont ces techniques de soi qui passent par l'écriture de soi et par la mémoire de cette écriture. C'est-à-dire, ce sont au fond ces notes qui sont réflexions, citations, tout ce qu'on veut, que le sage stoïcien doit lire, relire, etc., jusqu'au moment où elles vont tellement s'incorporer en lui qu'elles vont devenir le principe logique de son action. C'est ça le principe des hypomnémata. Donc il y a véritablement l'idée de fabriquer une espèce de corpus qui va s'incorporer et qui va être capable de prendre le relais du corps propre et d'asservir d'une certaine façon ce qui dans le corps propre est assujettissable pour fabriquer une espèce de corps autonome. Alors moi je crois que là j'arrive à ma conclusion, parce qu'au fond ça fait une boucle par rapport à ce qu'on avait dit tout à fait à la première séance sur la question du romantisme et du post-romantisme, et je vous avais dit comme ça, finalement Foucault est seul des auteurs français de son époque qui a véritablement fait un choix de s'arracher au post-romantisme. Maintenant je serai plus nuancée, maintenant je peux vous dire pourquoi je serai plus nuancée. C'est-à-dire que je pense que chez Foucault il y a véritablement deux perspectives, une perspective post-romantique qui fait du dandy, devenu ensuite l'ami, de toute façon, si je peux faire ces raccourcis un peu, voilà, un peu rapide, une sorte d'artiste de la vie, mais au fond, de façon extrêmement métaphorique, et en reprenant une idée de l'artiste finalement extrêmement, j'allais dire, extrêmement mythifié, mythique. Hein. Et puis, une perspective beaucoup plus intéressante, qui, par la reprise de Constantin Guy comme homme du monde, hein, c'est-à-dire au fond, comme n'étant pas un artiste, paradoxalement, hein, va débarrasser la figure de l'artiste de son mythe social, hein, et va au contraire voir dans l'artiste un technicien qui travaille finalement à une sorte d'invention authentée des techniques de son temps. Et quand je dis invention, il faut bien que vous entendiez le invenire latin, hein, qui veut dire, comme vous le savez, rencontrer, hein, qui veut dire retrouver, découvrir, et qui renvoie à une procédure de réinscription. Et donc, Constantin Guy, c'est véritablement un technicien de la réinscription, et c'est en ceci qui, à mon avis, nous amène tout droit, hein, vers ces questions de technologie de la mémoire, ou, qui me semble être la question contemporaine. Hein. Voilà. Donc, au fond, on pourrait dire que... alors, je ne reprends pas ce que je vous ai dit déjà la semaine dernière, parce que je vais tout de suite m'adresser à Bernard, qui va reprendre ce point certainement, qui va le développer. C'est-à-dire, il me semble qu'aujourd'hui, si la question, c'est bien la question de la réinscription des modes de programmation en mode de lecture, hein, en nouvelle forme de lisibilité et donc en nouvelle forme de lecture, hein, c'est véritablement cet axe de Foucault qu'il faut choisir. Hein, et voilà. Et donc... et c'est un petit peu dans cette perspective que j'ai invité les artistes que j'ai invités, hein, pour essayer de comprendre comment éventuellement la pratique, les pratiques artistiques peuvent se comprendre comme des pratiques de réinscription des technologies ou technosciences ou des technologies fournies par les technosciences contemporaines, hein, des modes donc d'invention de ces technologies, et des modes d'invention de nouvelles lisibilités, et comment effectivement ces pratiques peuvent participer de ce que Foucault appelle des luttes d'émancipation. Voilà, donc j'ai été là un peu rapide, mais je ne voulais pas non plus qu'on ressasse trop. Je pense qu'il y aura des questions, mais on va y revenir, hein, et je pense qu'on va y revenir avec ce que va dire Bernard, puis ensuite Gabriel. Et voilà, et alors ce que je voulais demander à Bernard, c'était en fait deux choses. C'était de nous éclairer de son point de vue sur effectivement quel est aujourd'hui le plan des luttes d'émancipation, à supposer que tu acceptes ce terme de lutte d'émancipation chez Foucault, voilà, voilà. Donc il y a déjà deux questions dans la première question, et ensuite alors de façon disons à partir de là éventuellement nous éclairer sur, alors j'ai pas repris ce point puisque Frédéric n'étant pas là, finalement c'était pour engager un dialogue avec lui, mais s'il n'est pas là je le fais pas. On avait eu tout un débat la fois dernière, mais je crois que tu as entendu cette partie de la bande sur individualisation, individuation, subjectivation, etc. Et j'avais assez envie de nous permettre d'accrocher aussi ces concepts, parce que je pense qu'il faut qu'on soit assez précis, terminus.
Voilà. Après, pour moi, c'est la même question.
Voilà, c'est la même question.
Bon, je t'avais dit que je parlerais 10 à 15 minutes, mais en y travaillant et en t'écoutant, je me dis c'est parti pour une heure. Je vais d'ailleurs t'emprunter ta montre. La mienne est en panne, donc pour ne pas être trop long, merci.
Non, mais tu as absolument une demi-heure.
Oui, voilà. Mais ça passe vite, une demi-heure.
Bah, au bout de trois quarts d'heure.
non, mais de toute façon, j'essaierai de ne pas dépasser 35 minutes. Moi, je dirais plutôt que émancipation, même si ce mot ne me gêne pas du tout.
Hein,
on en a déjà parlé, hein, donc c'est un mot qui ne fait pas peur du tout, et moi je n'ai pas du tout honte de parler d'émancipation, et le terrorisme postmoderne ne m'impressionne pas. Néanmoins, ce dont je parle, c'est plutôt de désaliénation. Voilà. Alors ça, c'est encore pire, aliénation, c'est encore pire, hein, aliénation, alors là, vraiment, les vieux marxistes de retour, bon... Eh bien, oui, mais je parle de désaliénation, y compris parce que je vais parler tout à l'heure de... Tu parlais de biopolitique et de biopouvoir chez Foucault. Moi, je parle de psychopolitique et de psychopouvoir aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des problèmes de psychopolitique et de psychopouvoir. Et à des problèmes d'aliénation, mais pas au sens de Marx, mais au sens de Charcot, au sens des aliénistes. Bon. Nous sommes confrontés à la question de l'âme, pas au sens des chrétiens, même pas au sens des grecs, mais au sens des psychiatres. Et par, alors, évidemment, je suis tout à fait d'accord à peu près avec tout ce que tu as dit. Il y a deux ou trois points sur lesquels j'apporterai soit des nuances, soit des questions, mais je me sens absolument chez moi là dans ce que tu disais. La question de la désaliénation, pour moi, elle se pose comme la question politiquement, parce que pour moi, la philosophie, c'est de la politique, l'art aussi d'ailleurs, tout est politique, comme on disait à l'époque où on parlait d'aliénation. Se pose en termes de dispositifs, ce que j'appelle des dispositifs rétentionnels, ce que j'ai décrit dans le temps du cinéma comme ce que j'appelle les dispositifs rétentionnels. Et là, je suis obligé de rappeler en deux minutes, très rapidement, de quoi il s'agit. Un pas essentiel pour moi a été fait dans mon travail à partir du moment où j'ai vraiment lu très sérieusement, je crois, j'espère, les leçons sur le temps de Husserl, et à partir du moment où j'ai pu critiquer la philosophie husserlienne des rétentions primaires, qui est en fait la philosophie augustinienne du temps, parce que c'est une reprise phénoménologique de la question de saint Augustin. Et je ne vais pas développer tout ça, je pense que beaucoup de gens connaissent ça ici de toute façon. Je rappelle juste que Augustin et Husserl surtout dit il faut distinguer les rétentions primaires, ce que Granel appelle le maintenant élargi, le grand maintenant, le fait que je suis en train de parler en ce moment par exemple, et ce que je viens de dire dans la phrase qui précède est passé, mais ça reste présent dans ce que je dis, sinon ce que je dis n'aura aucun sens. Il faut distinguer cela, ce qui est à mon avis très très lié à ce que Kant appelle la synthèse d'appréhension. Husserl nous apprend qu'il faut distinguer cela de la rétention secondaire, et de la rétention secondaire en tant qu'elle est la synthèse de reproduction, c'est-à-dire le passé. Je retiens une chose d'hier ou de tout à l'heure qui n'a plus lieu, etc. C'est pas Stiegler qui est en train de parler, par exemple, c'est maintenant qu'elle... Enfin, ou c'est pas Catherine qui est en train de parler, maintenant c'est Stiegler, tout à l'heure Catherine parlait, et donc c'est du passé, c'est déjà de la rétention secondaire. Alors Husserl nous a appris qu'il fallait distinguer ça de façon majeure, mais le problème c'est qu'il a opposé ces deux dimensions. Et que, en les opposant, il a fait une énorme régression par rapport aux acquis de Bergson. Ce que tu as dit, il y a aussi Bergson dans Deleuze, là, dans le passage que tu mentionnais, hein, qui est très important. La vie et tout ça, c'est Bergson. Moi. Bergson lui avait montré, de manière formidable, dans Matière et Mémoire, que précisément, le passé et le présent sont absolument intrinsèquement articulés, qu'en aucun cas on ne peut les désolidariser, et que du coup, la rétention, ce que j'appelle moi, en reprenant sur la rétention primaire, c'est une production des rétentions secondaires. Ça ne veut pas dire que c'est une rétention secondaire, mais ça veut dire que c'est produit au sens où il y a un producteur, comme au cinéma, et qu'il y a un acteur qui s'appelle la rétention primaire, mais il est produit par les rétentions secondaires. Bon. En l'occurrence, moi j'ai essayé de montrer que ça veut dire qu'il est sélectionné par les rétentions secondaires, c'est-à-dire qu'il y a du casting, c'est du bon. Alors, bon, ça... J'ai essayé de montrer ça contre Husserl, avec et contre Husserl, mais pour le montrer, je me suis appuyé énormément sur Leroy Gourand, sur beaucoup d'autres, sur Derrida aussi, et en fabriquant un concept qui est le concept de rétention tertiaire. Et ce concept de rétention tertiaire, il a été essentiel pour moi dans cette démonstration parce que j'ai essayé de montrer, et c'est très proche de ce que tu disais tout à l'heure sur la matérialité du 19e siècle qui change tout à coup les choses, et pour moi le 19e siècle c'est le siècle d'une nouvelle époque de la grammatisation, des appareils photo, phonographe, etc. La rétention tertiaire, c'est ce qui permet, par exemple le phonographe, tout à coup de faire les preuves expérimentalement d'une phénoménologie des rétentions qui montre que un même objet temporel se répétant une fois, trois fois, dix fois, eh bien à chaque fois, il produit des rétentions primaires différentes. Et ça, c'est le phonographe qui permet de l'expérimenter parce que il n'y a que depuis qu'il existe des phonographes qu'il est possible de répéter une mélodie dix fois de suite. Avant, c'est absolument impossible. C'est toujours une autre interprétation. Et ça, c'est évidemment un événement absolument majeur. Je pense que dans Pierre Huyghe, je sais pas ce qu'on en dira tout à l'heure, mais je pense que dans Pierre Huyghe, il y a une question qui se... Enfin, la question de la mémoire chez Huyghe, elle passe par là. Bon. Alors, Ça, c'est pour rappeler ce que j'appelle les rétentions. Ce que j'appelle les dispositifs rétentionnels, ce sont des agencements de rétention tertiaire. Ces agencements de rétention tertiaire, il se trouve que... Alors, qu'est-ce que j'appelle une rétention tertiaire? Une rétention tertiaire, c'est une mémoire matérialisée. Donc, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être ce magnéto qui est en train d'enregistrer un MP3, c'est le bâtiment de Beaubourg, c'est tout ce qui matérialise de l'expérience du temps, c'est-à-dire ce qui spatialise du temps. Parce que ça veut dire que matérialiser la mémoire, ça veut dire spatialiser le temps, ça veut dire transformer le temps en espace, fondamentalement. C'est au cœur de la question artistique, ce problème, évidemment. Ça constitue des dispositifs, et ces dispositifs, ce sont des enjeux de pouvoir. Ce sont aussi des enjeux de savoir, ce sont aussi des enjeux de création, si on veut accepter ce mot de création que je manipule toujours entre guillemets, mais ce sont des enjeux de pouvoir. Et les luttes, puisque tu me posais la question de quels sont les horizons de lutte, les luttes sont toujours des luttes sur les dispositifs rétentionnels. Dans tous les cas, que ce soit à l'époque de la grotte Chauvet, que ce soit à l'époque des pharaoniques, des devins égyptiens, que ce soit à l'époque du conflit entre les sophistes et les philosophes, que ce soit aujourd'hui au Centre Pompidou les conflits sur l'accès aux espaces d'exposition, sur la sélection dans les 58 000 ou 9 000 œuvres du fonds, etc. Dans tous les cas, ce sont des dispositifs rétentionnels qu'il s'agit de contrôler. Il y a, cela dit, alors ça, si je dis que c'est dans tous les cas, c'est donc pas une question spécifique de notre époque. En revanche, ce qui est spécifique de notre époque, c'est que la question des dispositifs rétentionnels est devenue le cœur de la vie industrielle. Et ça commence au 19e siècle, en réalité. Et le premier à en parler, en fin de compte, pour moi, après, il y a peu de temps que j'ai découvert ça, parce que c'était une relecture récemment, c'est Adam Smith. Et finalement, pose des problèmes autour de la machine-outil, qui vont beaucoup inspirer Karl Marx ensuite. Alors, ce que j'appelle ici les rétentions tertiaires, c'est ce que Foucault appelle les hypomnemata. Et c'est ce que Platon appelle l'hypomnésis. Quand tu posais la question dans le séminaire de la semaine dernière, ce que tu as très rapidement rappelé ici, en une phrase, de comment retourner les modes de subjectivation en processus... Alors, ce que moi j'appellerais des processus d'individuation, c'est comment faire de l'anamnèse avec de l'hypomnèse, si on prend le discours de Platon. Voilà. Sachant que pour moi, ce que j'appelle l'individuation, c'est l'anamnèse. Mais l'individuation, ce qui est très important, et ce qui est peut-être pas très sensible chez Foucault, pour autant que Foucault ait vraiment lu Simondon, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il en a entendu parler, mais je ne crois pas qu'il l'ait vraiment lu. Par contre, Deleuze l'a lu, ça j'en suis absolument certain. Cette individuation, elle n'est pas simplement psychique. Et tout le problème, c'est qu'en général, quand on parle d'individuation, on réduit l'individuation à un processus psychique. Tout ce qui m'intéresse, moi, chez Simondon, et que j'explore en le tordant, Simondon, parce que souvent j'écris contre Simondon. Je ne suis pas simondonien, moi. Ce qui m'intéresse chez Simon, c'est là où ces trucs travaillent en contradiction. Bon. C'est que chez lui, l'individuation ne peut pas être simplement psychique, elle ne peut même pas être simplement sociale, elle est nécessairement aussi, non seulement technique, mais aussi scientifique, artistique, morale, biologique, etc., etc. Et c'est ça qui est très très intéressant. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que relire Foucault avec Simondon, ça peut être très très intéressant. Parce que tout à coup, ce que Foucault décrit comme technologie de pouvoir, biopolitique, etc., et qui peuvent parfois paraître un petit peu, éclaté, hétérogène, etc., d'un seul coup, ça prend une espèce de... comme ça. Parce que c'est pas pour autant de la dialectique hegelienne, c'est pas quelque chose qui va... Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'individuation dans un... Bon. Et bien, l'individuation, c'est le contraire de l'individualisation. C'est le contraire. Pour une raison très précise, parce que Simondon explique qu'elle soit psychique, collective, technique ou autre, l'individuation est structurellement inachevée. Il n'y a donc pas de principe d'identité de l'individuation. Il est absolument impossible de produire une identité de l'individuation par structure. Le premier élément d'expérience de l'individuation pour celui qui s'individue, non pas qui s'individualise, Mais pour celui qui s'individue, et quand je dis celui, ça peut être toi ou moi, ça peut être ce groupe, ça peut être l'UMP ou le PS ou la peinture ou je ne sais pas quoi, ça devient des processus, bon, et que ce soit psychique ou pas, n'a strictement aucun intérêt ici. Ça peut être une œuvre en train de s'individuer, bon, pendant qu'elle est en train d'être produite, bon, ou un film pendant qu'il est en train de tourner, pardon. Alors, je vais y revenir, parce que pas simplement, justement, pas simplement. Ah, c'est aussi psychique, bien entendu. L'individuation, c'est ce qui n'a pas de terme. Alors là, on peut renvoyer à l'interminable ou à l'improbable, selon Blanchot, à l'indéterminé, chez Heidegger, à tout ce qu'on veut. Bon. Tandis que l'individualisation, c'est ce qui tend à poser un terme. C'est ce qui tend précisément à se constituer autour d'une identité, une figure de l'identité. L'individualisation n'est pas du tout construite autour d'une figure de l'identité, mais de la singularité et de l'altérité. Une question qui... Bon, moi j'essaye de développer une théorie de l'individuation comme ce que j'appelle un dispositif de projection de consistance. Bon. Et donc, j'affirme, mais dans un sens, je crois vraiment, quand même vraiment assez différent de ce que dit Deleuze, mais j'affirme qu'il y a ce que j'appelle des plans de consistance qui sont les écrans de projection des existences en tant qu'elles se détachent des subsistances. Et ici, puisque tu as parlé d'immanence tout à l'heure et de transcendance, moi j'essaye de développer, je viens de publier, de republier l'individuation psychocollective de Simondon, qui est ressorti en librairie la semaine dernière, et j'en ai fait la préface. Et dans cette préface, j'essaye de montrer que chez Simondon, il n'y a pas de transcendance chez Simondon, tout comme chez Deleuze. Mais par contre, il y a ce que j'appelle une amplitude de l'immanence. Je veux dire par là que l'immanence n'est pas plane. Elle n'est pas plate. Elle est volumineuse. Elle est volumineuse et donc elle ouvre, elle a un horizon, et sur cet horizon, il y a du haut et du bas. Alors ça, c'est extrêmement important chez Simondon. Mais ça a été très très peu soulevé, à ma connaissance d'ailleurs, absolument personne n'a commenté ça. Pourtant c'est extrêmement important. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est parce que les consistances, pour moi, c'est ce qui donne cette volumétrie de l'immanence, et donc c'est ce qui ouvre, thématique très deleuzienne, et aussi heideggerienne, bergsonienne, etc., c'est ce qui ouvre, et donc c'est aussi ce qui œuvre. Et c'est ce qui donne lieu, par la même occasion. Alors, tout ça que je rapporte, qui est une lecture non platonicienne de la question de l'anamnèse, bon, puisque finalement individuation et anamnèse c'est la même chose ici, tout ça, ça ne peut être pensé que comme un processus. Ce processus, il est d'emblée non seulement psychique et collectif comme chez Simondon, pour moi, mais il est aussi technique, scientifique, épistémique, artistique, politique, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une co-individuation d'un ensemble de processus. Et qu'on ne peut absolument pas penser l'individuation psychique sans la projeter d'emblée dans ses dimensions collectives, techniques, etc. Et c'est pour ça que je parle d'organologie générale, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas possible, enfin, on peut toujours dire des choses intéressantes sur le plan strictement psychique, etc., mais si on veut penser l'individuation en tant qu'individuation, et justement pas en tant qu'individualisation, alors on est obligé d'éclater tous ces plans, parce qu'il n'y a pas d'individuation psychique sans individuation. Ça, c'est la grande leçon de Simondon. C'est-à-dire que je ne peux pas m'individuer psychiquement sans que ça donne une individuation collective. Il faut que ça aille s'inscrire en dehors de moi, sinon je ne m'individue pas. Alors ça, c'est ce que dit déjà Winnicott avec l'espace transitionnel, etc. Je veux dire, ça nous renvoie à une clinique. En particulier chez la psychanalyse des nourrissons, etc. Bon, mais aussi, alors tout ce qu'on a, ce dont on a déjà parlé ensemble, la préhistoire, enfin bon, etc. Mais c'est aussi, ça veut dire aussi qu'il y a une individuation technique. Et là, évidemment, on fait tout à coup surgir une nouvelle façon de poser le problème de l'hypomnématone, et qui est assez différente de celle de Foucault. Parce que, alors moi je revendique pleinement le texte de Foucault, hein, je trouve que c'est un texte absolument génial en plus. Mais le seul problème, c'est que, alors il arrive tardivement, 84, il a parlé depuis déjà des années des sociétés disciplinaires, de toutes les techniques du pouvoir, les technologies de pouvoir, etc. Et il ne pense pas l'individuation technique, c'est-à-dire qu'il ne pense pas comment ces dispositifs-là ont eux-mêmes une histoire qui se transforme. Ils ne le pensent pas, même s'ils l'entrevoient avec un passage qui est dans le Foucault de Deleuze, et où je critique beaucoup Deleuze, dans un chapitre qui s'appelle « Le diagramme », et où j'essaye de montrer que Deleuze, alors là, fait une contre-lecture de Foucault complètement, parce que il dit que le fusil vient après le diagramme, etc., ce qui, à mon avis, est complètement erroné. Et chez Foucault, je pense que si Foucault avait vécu, ça fait un an que je suis plus vieux que Foucault. Je pense ça pendant longtemps. Foucault m'est apparu comme un homme plus vieux que moi, et depuis un an, je suis plus vieux que lui, parce qu'il est mort. Il avait 54 ans, si je me souviens bien. Et s'il avait vécu, ce qui est très jeune quand même, 54 ans, je dis ça pour m'assurer, s'il avait vécu, je pense qu'il serait nécessairement venu vers cette question de l'individuation des hyponémata. Je pense que c'était inscrit dans le truc, mais il ne l'a pas fait, malheureusement, pour nous. Alors, cela étant, une fois qu'on a dit tout ça, pour moi, je reviens à ta question, à propos de quoi s'agit-il de lutter? Alors, la question, c'est la désaliénation par rapport à des dispositifs rétentionnels qui ont une histoire qu'il faut faire. Cette histoire, je l'appelle l'histoire de la grammatisation. Et cette histoire, elle est arrivée au 19e siècle, à son stade industriel, qui relève de ce que tu appelais la semaine dernière, puisque j'ai écouté une partie du séminaire, la technologie de l'information et de la communication, etc. Aujourd'hui, ces technologies-là développent non pas simplement du biopouvoir, ou des choses comme ça que Foucault a tellement bien décrites, mais des psychopouvoirs. Et en tant que psychopouvoirs, ce sont des dispositifs rétentionnels qui sont des objets de lutte farouche pour en prendre le contrôle. Toutes sortes de luttes d'ailleurs, entre des groupes industriels, entre des groupes sociaux, entre des écoles artistiques, entre des écoles philosophiques. Et ça se bagarre dans tous les coins, bon, en ce moment, pour ça. Entre aussi scientifiques, qui, par exemple, entre sciences cognitives d'un côté, neurosciences de l'autre, etc. Tout ça, ce sont des discours là-dessus, plus ou moins mal ou bien tournés. Mais derrière ça, pour moi, il y a un problème que j'appelle de plus en plus d'écologie libidinale. Car finalement, qu'est-ce que c'est que l'hypomnématon? Eh ben, on pourrait dire, c'est le fétiche. Enfin, c'est le fétiche. C'est vite dit de dire les choses comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Comment fonctionne un hypomnématon? Comment est-ce que c'est possible? Ce que Husserl appelle l'objet investi d'esprit, quand il parle du livre. Pour que tu puisses regarder un livre et faire que tout à coup tu ne le regardes pas mais que tu le lis, ou regarder un tableau et que tu ne le regardes pas, mais simplement mais qu'il t'affecte, etc., etc., il faut qu'il se fétichise à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se surcharge de quelque chose qu'il n'est pas. Ça, c'est absolument... Bon, c'est la question du symbolique, en règle générale. Hein. Mais, aujourd'hui, ceci se développe de telle manière que c'est devenu le cœur de la lutte, de la guerre économique, et les contradictions internes du capitalisme, et que l'exploitation du pouvoir hallucinatoire, disons, des hypomnémata, est devenu le cœur du contrôle. Et c'est le cœur des sociétés de contrôle, des technologies de contrôle. C'est par là que le désir est canalisé, capté, et qui peut éventuellement être, à mon avis, en tout cas ça c'est la thèse que je défends, que tout le monde ne partage pas, mais qu'il peut être décomposé en pulsions. Alors, moi je crois que cette possible décomposition en pulsions qui traduit dans les langues, dans les termes de Chimonon, s'appellerait la désindividuation, qui est en fait pensée depuis les années 30 par Freud, enfin, donc qui n'est pas du tout une question nouvelle, elle est possible parce que d'abord, le désir a toujours tendance à se décomposer en pulsions. C'est pas du tout quelque chose que le monde actuel viendrait... créé chez nous, c'est la même chose que tu disais tout à l'heure sur la mémoire matérialisée, c'est pas du tout une chose nouvelle. Le désir a toujours tendance à se décomposer et donc à tourner au vinaigre. Bon. En revanche, aujourd'hui, nous vivons une époque très spécifique avec ces dispositifs rétentionnels qui sont les nôtres, qui produisent ce que j'appelle de la dissociation. Alors, là, j'ai besoin encore de 5 à 10 minutes pour préciser de quoi il s'agit. Et les choses vont bien se préciser, je crois. Je pense que Un milieu pré-individuel. J'ai bien noté que tu te méfies de ce mot pré-individuel, moi aussi. Hein. Et j'essaye justement de montrer, je l'ai écrit dans un article de la revue philosophique, pourquoi ce que Simonon appelle le pré-individuel, en réalité, pour moi, c'est toujours déjà du trans-individuel. Bon. Alors, cela dit, c'est à cause de la physique quantique que Simonon en appelle au pré-individuel. Hein. C'est pour des raisons de logique quantique, si je puis dire, ou d'illogique quantique. C'est parce qu'il essaye de montrer que dans le domaine de la philosophie ou des sciences humaines, il en va comme en mécanique quantique, c'est-à-dire qu'il y a appelons ça des relations d'incertitude, et qu'il y a toujours du déjà-là qui est absolument inaccessible et qui ne peut être accessible que si on individue. Et alors quand on individue, ça devient du trans-individuel, mais on n'y accède jamais en tant que tel. C'est pour ça qu'il parle de pré-individuel. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très ambigu et bon. Quoi qu'il en soit, les processus d'individuation, psychique, collectif ou autre, sont toujours des processus qui se produisent dans ce que j'appelle des milieux associés. Et ce que j'appelle un milieu associé, ça tu le sais parce que j'en ai parlé dans deux ou trois séminaires auxquels tu étais, c'est un milieu où, pour que l'individuation puisse se produire, pour moi le premier qui pensait ça, c'est Aristote, hein, c'est le traité de l'âme. En fait, c'est pas Simondon le premier à penser ces choses, c'est Aristote. Moi. C'est impossible que je m'individue, par exemple en ce moment, sans que je pose les conditions et que je requière les conditions que tous les gens qui sont là en ce moment en train de m'écouter s'individuent aussi, c'est-à-dire soient en position de parler comme moi. Et donc je ne peux pas être de locuteur si je ne pose pas en principe que ceux qui m'écoutent sont locuteurs. Donc déjà, c'est en ce sens-là que je pose que mon individuation psychique suppose l'individuation psychique des autres, et donc je me co-individue déjà collectivement avec les autres. Mais troisièmement, et c'est surtout là où je voulais en venir, notre co-individuation psychique et collective induit l'individuation du milieu linguistique lui-même. Et ça veut donc dire que y a toujours une troisième individuation, il y a toujours trois termes. Alors ça renvoie au jeu, au tu et au il. Hein. Il y a toujours trois termes, et ces trois termes, finalement, qu'est-ce qu'ils produisent? Ce que Simonon appelle du transindividuel. Et moi, je dis, oui, du transindividuel, mais ça suppose un processus de transindividuation. C'est-à-dire qu'une individuation est toujours déjà une transindividuation. Et à trois termes. Au moins trois termes. Toujours au moins trois termes. Alors, c'est là que les choses se précisent un peu, par rapport, d'une part, aux enjeux contemporains de lutte, et d'autre part, par rapport à l'épistémé, ce que tu appelais l'épistémé tout à l'heure, ou l'œuvre, ce qu'on appelait l'œuvre tout à l'heure. Pourquoi ça se précise? Parce que, dans ces milieux de transindividuation, il est toujours possible de produire des courts-circuits dans la transindividuation, c'est-à-dire, par des techniques, par des psychotechniques, par des logotechniques, parce que, par exemple, Platon appelle la logographie des sophistes, il est toujours possible de court-circuiter l'individuation des autres et de les manipuler. Et donc, à partir de là, de les subjectiver, pour reprendre les termes de l'autre fois, et de les subjectiver, mais en les désindividuant. Bon. Ce qui est une forme de désubjectivation, en fait, aussi, d'ailleurs, à mon avis, à terme. Et l'objet de la lutte, pour moi, dans tous les cas, c'est de lutter pour reconstituer des longs circuits de transindividuation, parce que je pense que, appelons ça le plaisir, disons, le plaisir du désir passe dans l'allongement des circuits de transindividuation. C'est exactement ce que dit Socrate quand il répond à un jeune Athénien en lui disant « ne va pas écouter ces sophistes, ces sophistes vont te faire faire des courts-circuits dans la transindividuation, ça veut dire qu'ils vont t'empêcher de penser par toi-même, alors que vois avec moi, regarde, si on réfléchit ensemble à ce que c'est que la vertu, regarde le pied qu'on se prend à faire de la dialectique ensemble. » Et ça, c'est effectivement... C'est la démonstration, c'est ça qui fait l'autorité de Platon. Hein. Dès qu'on lit un dialogue de Platon, on constate ce truc et on se dit, il est quand même très très fort ce Platon, même si on n'est pas d'accord avec lui, on se dit, il y a une démonstration, une preuve par neuf, bon, qui est formidable. Eh bien ça, moi je pense que c'est le cas de toute œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une œuvre, et je dirais une œuvre, et pas simplement d'une épistémé, ou alors je ferais coïncider les deux, ce qui peut faire un sujet de discussion, C'est ce qui parvient à poser une coïncidence de l'individuation psychique, de l'individuation collective et du milieu d'individuation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une œuvre, eh bien, ces trois trucs cristallisent en même temps, se co-individuent en même temps. Et ça, c'est miraculeux. C'est pour ça que j'ai parlé, il n'y a pas très longtemps, de lévitation par rapport à l'expérience d'une œuvre, pas simplement artistique, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre en général, d'une œuvre, appelons ça d'une œuvre de l'esprit, avec des guillemets, c'est toujours une expérience de cette dimension qui paraît miraculeuse et qui est pour moi le sens de ce que Blanchot dit lorsque, comme entendu Hölderlin, il dit de l'immédiat, il n'y a pas de saisie immédiate. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cet effet d'immédiateté. Et cet effet d'immédiateté, c'est cette coïncidence dans la transindividuation. Cela étant, ceci, ça se produit toujours par une mémoire matérielle. C'est-à-dire qu'il n'y a d'œuvre que comme matérialisation. Enfin, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, ou à ce que je disais moi-même, en disant que la rétention tertiaire, c'est ce qui spatialise du temps, de la mémoire, et donc c'est ce qui transforme de l'anamnèse, parce qu'une œuvre c'est une anamnèse, ce que je viens d'écrire comme un processus de transindividuation immédiate, c'est typiquement ce qu'on appelle une anamnèse, que ce soit au sens de Platon ou de Proust d'ailleurs, ce que Proust appelle une réminiscence, mais ça ne fonctionne qu'à travers une hypomnèse, c'est-à-dire qu'à travers une matérialité, que cette matérialité soit un dispositif quelconque, rétentionnel, sous la forme d'une installation visuelle, d'un livre, d'une mise en scène, tout ce qu'on veut, mais dans tous les cas, il y a matérialisation, c'est-à-dire un développement hypomnésique de cette anamnèse. Alors, je vais m'arrêter là en disant juste que, pour terminer, tu disais ce qui se passe avec les technologies contemporaines de la mémoire, etc., ça n'est que une actualisation de techniques qui existe déjà, c'est tout à fait vrai, enfin moi je suis évidemment, tu le sais bien, complètement d'accord avec ça. En revanche, ceci se produit dans un processus, ce que j'appelle un processus de grammatisation, un processus qui a toute une histoire, et cette histoire de la grammatisation, eh bien, elle passe d'abord par la grammatisation du corps en tant que le corps supporte, par exemple, des techniques de comptabilité, des techniques de le corps du sorcier tatoué, etc. Puis ensuite des techniques, alors techniques qui vont conduire à l'idéogramme, enfin à tous ces systèmes d'écriture pré-alphabétique, puis à l'écriture de la langue en tant que telle, c'est-à-dire à l'écriture alphabétique, puis à l'écriture de la mémoire en tant que logographie qui va... toutes les mnémotechniques qui vont se développer, puis l'écriture du corps, au sens où ce que j'appelle ici l'écriture du corps, c'est la reproductibilité des gestes de l'ouvrier, par exemple par la machine, qui produit des algorithmes machiniques qui permettent de reproduire une séquence de travail sur un objet, mais par un automatisme. Et puis maintenant, ce que nous vivons en ce moment, c'est la grammatisation des sociétés, parce que quand on parle de social engineering maintenant dans le domaine des technologies du web, de formalisation avec les technologies coopératives, de modèles coopératifs de groupe, bon. Ce sont des grammatisations du social, et les biotechnologies, la discrétisation des séquences de nucléotides par les enzymes de restriction, par tout ça, c'est de la grammatisation du vivant. Et il y a même aujourd'hui, avec le microscope à effet tunnel, de la grammatisation de la vie, de l'activité atomique. Bon. Donc on est dans un processus actuellement de grammatisation absolument généralisée de toutes les couches qui constituent les phénomènes. À l'intérieur de ça, la question, c'est en effet la question des pratiques. Et l'enjeu de la situation actuelle, c'est comment on parvient à développer des pratiques, des hypomnémata, y compris de ces couches de grammatisation nanotechnologiques que je viens d'évoquer par exemple, comme pratiques qui permettent de produire de l'individuation. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté il y a quelques années sur l'opposition entre pratique et usage. Là, il s'agit. Les usages, ce sont pas du. Alors, les usages, ce sont typiquement des processus de subjectivation, au sens où tu en parlais tout à l'heure. Les pratiques, ce sont des processus d'individuation, pour moi. Et je pense que la politique, si ça peut encore exister à l'avenir, ce que je continue à croire, ça passe fondamentalement par une politique précisément du développement de telles pratiques mais ça suppose d'avoir un discours sur ce que sont ces dispositifs rétentionnels de ces époques de la grammatisation. Voilà ce que je pouvais répondre à tes questions.
Merci, bon, c'est pas la grammatisation qui vous ferait, c'est la lentille. Donc,
la lentille de contact, c'est déjà un effet de grammatisation. C'est... Mais, donc, ce que je vous propose, c'est de poser les questions par rapport à l'exposé de Bernard. Vous me laissez exactement 30 secondes. Je reviens dans 30 secondes. Et Bernard, tu as combien de temps, toi, encore avec nous ?
J'ai 20 minutes.
Parfait. Bon, donc, on a 20 minutes pour discuter.
François Nillet, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la coïncidence à trois termes sur laquelle vous avez dû passer un peu rapidement ?
Oui. Voilà.
Il faut savoir, pour que mon propos soit clair, enfin clair, peut-être pas clair, mais en tout cas plus clair, moins obscur, que je pense, ce qui n'est pas du tout à la mode, mais ça, j'espère que ça va y revenir, je pense dans les termes aristotéliciens de l'acte et de la puissance. Je fais partie des gens qui croient que ce couple acte-puissance, qui est donc le fondement de l'ontologie aristotélicienne, reste absolument nécessaire. Et donc, je pense que nous sommes des êtres qui... alors là, ça peut se rapprocher beaucoup de ce que dit Simondon. Nous sommes des êtres métastables et que dans notre métastabilité, nous avons des hauts et des bas. Bon. C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'amplitude de l'immanence. Nous pouvons nous élever dans l'immanence, nous pouvons descendre au plancher de l'immanence, voire dans les sous-sols de l'immanence. Et donc, je pense, comme Aristote, qu'on peut être en acte, passer à l'acte. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle comme ça. Qu'on peut passer à l'acte. Donc la plupart du temps, on n'est pas en acte. Et je pense, comme Aristote, qu'il n'y a que Dieu qui peut jouer du privilège d'être en acte en permanence. Bon. Mais ce qui est vrai, ce que j'appelle, ce que je dis, on ne peut pas, ce que j'appelle on ici, c'est pas simplement psychique. C'est aussi collectif. Et par exemple, la langue, ce qu'on appelle la langue, c'est une puissance. Alors on dirait aujourd'hui une compétence dans le langage de Chomsky. Mais moi je tiens à garder ce terme de puissance. C'est parce que dans puissance, il y a pouvoir. C'est beaucoup plus fort que compétence. Compétence, c'est petit par rapport à puissance. Et il y a pouvoir. Mais ce pouvoir, à un moment donné, il passe à l'acte. Et quand il passe à l'acte, il devient du savoir, d'ailleurs. Alors, il peut passer à l'acte plus ou moins médiocrement, ou plus ou moins exemplairement, ou excellemment. Quand il passe à l'acte par excellence, il est au sommet, à ce que Aristote appelle son entéléchie, bon, eh bien, c'est dans le moment où, si par exemple, disons, Proust passe à l'acte par excellence, alors ça c'est Proust, on va dire, voilà, ça c'est vraiment Proust, et ben ça c'est vraiment la langue française aussi, et ça c'est vraiment moi, c'est-à-dire qu'au moment où je vois que Proust passe à l'acte, en le lisant par exemple, hein, je me dis, ah voilà, ben là, ça c'est vraiment du Proust, grand Proust quoi, ma langue s'individue, la langue dans laquelle je lis Proust, hein, s'individue, et moi-même je passe à l'acte avec le passage à l'acte de Proust, il y a une coïncidence. En fait, cette problématique, elle est développée par Aristote dans le traité de l'âme, justement. Lorsqu'Aristote dit que pour que le sentant puisse passer à l'acte, il faut que son passage à l'acte en tant qu'il est sentant, soit aussi le passage à l'acte du senti, de ce qu'il sent, de l'objet qu'il sent, et que l'objet qu'il sent est le passage à l'acte du milieu dans lequel cet objet se donne. Par exemple, si c'est le visible, mais Aristote appelle ça le diaphane. Donc il dit, l'objet va passer à l'acte de la couleur, et la couleur va actualiser la lumière, etc. etc. Bon, c'est toute une phénoménologie aristotélicienne. Moi, j'essaye d'interpréter ça, évidemment, dans un terme, alors après, tout à fait différent de ceux d'Aristote, parce que ce que je partage avec Simondon et la contre-Aristote, c'est que je pense qu'il ne faut pas raisonner dans l'opposition de la matière et de la forme, donc alors qu'Aristote, ça repose sur l'opposition forme-matière. Chez Aristote, l'acte, c'est la forme, et la puissance, c'est la matière. Bon. Moi, je ne raisonne pas du tout comme ça, pour les raisons qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a de la mémoire matérielle, et la théorie des quatre causes, que je reprends à mon compte d'ailleurs, je la reprends à mon compte, cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale, je la reprends à mon compte, mais pas du tout comme Aristote, parce qu'Aristote oppose ces causalités, alors que moi, je les oppose pas du tout, je les recompose, j'essaye en tout cas. Et donc, à partir de là, je raisonne en termes de processualité. Mais, pour finir de vous répondre, ce que je voulais dire en parlant de coïncidence, ça nécessite quand même un mot supplémentaire pour que ce soit bien clair. Ce que Simondon appelle le transindividuel, c'est le fait qu'à un moment donné, le milieu dans lequel nous pouvons nous rencontrer, que ce soit le milieu du visible, le milieu de la langue, il y a toujours un, mais en réalité c'est toujours des milieux, c'est jamais simplement un milieu dans lequel nous nous rencontrons, ces milieux, ils sont métastabilisés par ce que Simondon appelle des significations. Et ces significations, elles ont subi un processus que dans la rhétorique de Dumarsais on appellerait une catachrèse. C'est-à-dire que ces significations, un jour elles ont été un sens extrêmement puissant. Un jour elles sont nées, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Il y a eu un jour où cette signification n'existait pas. Et cette signification, elle s'est produite. Par exemple, la signification de métastabilité. Bon, aujourd'hui, métastabilité, je l'emploie, les gens croient plus ou moins savoir de quoi il s'agit. Pourquoi ? Parce que depuis la thermodynamique, on parle de métastabilité, etc. Et puis depuis que Simondon circule, on dit, bah oui, la métastabilité, tout ça. Mais métastabilité, il y a un siècle, ça n'existait pas. Pas plus d'un siècle. Ça ne voulait strictement rien dire. Et un jour, il y a un mec qui a dit, voilà, je décris un phénomène, voilà le phénomène, ça s'appelle la métastabilité. Eh bien, il a produit une signification. Or, cette signification, elle est entrée dans le langage de la physique, puis de la philosophie, puis maintenant, peut-être, elle va rentrer dans le langage du marketing, parce que Simondon, je suis sûr que le marketing va se l'approprier dans pas longtemps, et ça va devenir un mot de la tribu, comme dit Mallarmé. Et ça, c'est des questions de Mallarmé, hein, parce qu'en fait, c'est Mallarmé qui a travaillé sur ces questions. Alors, il y a un moment, c'est le moment du poète, justement, c'est le moment poétique de Mallarmé, absolument, par excellence, il y a un moment où tout à coup, il y a un mot de la tribu qui surgit, enfin qui n'est pas de la tribu justement, qui n'est pas encore de la tribu, mais qui va devenir le mot de la tribu, qui est le mot, appelons-le, du poète, là, pour aller vite. Et ce mot, il reconfigure la langue entière. C'est-à-dire que dès qu'il arrive, c'est toute la langue qui se rejoue. Hein. Si d'un seul coup vous intégrez le concept de transindividuel ou de métastabilité de Simondon, c'est toute votre langue philosophique qui bougera. Peut-être pas immédiatement, parce que ça se fera avec ce jeu-là, comme ce que décrit Lévi-Strauss, c'est-à-dire, comme je ne sais plus comment ça s'appelle ce petit jeu-là, bon, le signifiant flottant qui va se balader, etc. Mais ça, c'est pour ça qu'il parle de processus. À la différence, le passage à l'acte ne se produit pas chez Simondon comme ça d'un coup. C'est la différence avec Aristote. C'est un processus. C'est pour ça qu'il parle de processus d'individuation. Donc ça va, c'est ce qu'il appelle la résonance interne. C'est-à-dire, ça va se syncristalliser, se structurer par résonance. Mais voilà, c'est néanmoins, pour que ça se produise, pour que se produise ce qu'il appelle le saut quantique dans l'individuation, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui passe à l'acte et qu'il y ait cette coïncidence-là, qui donne ce qu'on va appeler du transindividuel. Et pour moi, une œuvre, moi, les œuvres, œuvrent sur moi, à partir du moment où elle me transindividue, enfin, où elle me donne à vivre du transindividuel. Voilà. Sinon, ça ne me fait rien.
Moi, j'ai pas vraiment une c'est d'une part une espèce de tentative de traduction, et ensuite une question. Alors, la tentative de traduction, ce serait de dire au fond que le plan de consistance des luttes, en fait, c'est-à-dire ce que j'ai appelé leurs enjeux, hein,
c'est l'association.
Ouais, absolument. Voilà.
C'est l'association. Entre psychique, collectif et milieu, on est d'accord. Et que si on reprend ça dans la perspective de la problématique que j'ai élaborée à partir de Foucault, au fond, l'enjeu donc de l'association, d'une certaine façon, c'est de détourner les psychopouvoirs. Hein, voilà, c'est-à-dire, au fond, et ces psychopouvoirs, ce que tu appelles psychopouvoirs, au fond, ce sont les héritiers de ce que Foucault dénonce comme intériorité, comme fiction d'intériorité. On peut dire ça, hein, d'une certaine façon. Hein. Bon, donc on est d'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, et ce sera ma question, évidemment, elle est très, très grosse, hein, donc c'est juste pour amorcer cette chose, c'est, au fond, bon, toute association est une dissociation. Hein, puisqu'il n'y a pas d'association d'un milieu sans dissociation, d'association, disons, soit corrélative, hein, soit antérieure. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a œuvre moins au moment de l'association qu'au moment de la dissociation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fond, moi, quand j'essaie de comprendre ce qu'est l'œuvre, parce que pour moi, l'œuvre, c'est une temporalité, hein, vraiment, qui est effectivement indissociablement une temporalité psychique, mythique et donc collective, on va dire. Et technique. Ce que j'observe très souvent, c'est que la manière dont se constitue cette temporalité, c'est souvent par, en tout cas dans l'art, c'est souvent par travail d'une technique contre un médium ou d'un médium contre une technique. C'est-à-dire que très souvent, on va encore le voir à propos de Huyghe, hein, le théâtre de marionnettes pour parler de la technoscience. Hein, voilà. C'est-à-dire cette manière de convoquer des médiums, de faire jouer des techniques contemporaines contre des médiums anciens ou l'inverse. Hein. Pour moi, effectivement, je reviens finalement au problème posé antérieurement, à la question de la coïncidence. Très souvent, même dans l'écriture même si on parle de Proust, tu vois, par exemple, Proust, finalement, c'est jamais la nomination, c'est toujours la métaphore. Et la métaphore est un travail de temps qui va complètement dissocier les effets de nomination. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ce qui fait la caractéristique de la pratique artistique, disons si on essaie de la comprendre à partir de ta problématique, c'est que justement elle cherche moins la coïncidence qu'au contraire la désarticulation. Tu vois? C'est-à-dire la production d'une temporalité diffractée. Et que c'est ça qui va faire finalement ce qu'on va appeler l'œuvre, qui n'est jamais, je veux dire, d'une certaine façon, c'est jamais l'œuvre de quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours un truc qui est justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça traverse. Hein, voilà, c'était un peu le sens de ma question. Oui, alors tu me diras, ça devient hyper.
Non, c'est pas du tout. Alors d'abord. Pour diverses raisons, certaines que je vais ne faire qu'évoquer ici, je n'ai pas le temps de développer, parce qu'on a vraiment pas assez de temps, mais dans un livre que je crois que tu as lu, j'ai essayé d'expliquer que ce que j'appelle les longs circuits de transindividuation sont de toute façon toujours appuyés sur des courts circuits. Donc, la question, c'est pas du tout d'opposer les longs et les courts circuits.
Bien sûr.
Et d'autre part, ce qui se produit. Ce que j'appelais là tout à l'heure la coïncidence, c'est un processus que je rapporte moi à ce que la philosophie appelle la synthèse. Ce que j'appelle parfois la surpréhension. Ce que je veux dire par là, c'est que l'œuvre, ça n'œuvre que si, à un moment donné, il y a une prise qui me dépasse, qui peut faire appel à beaucoup de compréhension pour chez moi, beaucoup de prérequis, machin, tout ce qu'on veut, connotation, etc. Mais qui, si ça ne fait appel qu'à ça, ne fait rien.
Ça marche pas.
Et qui, à un moment donné, synthétise quelque chose et fait que moi-même, je synthétise. C'est-à-dire que j'ai simple. Et j'hallucine, du coup. Du coup, j'hallucine. Si j'hallucine pas, il ne se passe strictement rien. Et j'appelle ça la mystagogie. Et je dis que dans toute synthèse, il doit y avoir un moment mystagogique. C'est ce que les rationalistes n'arrivent pas à comprendre. Les rationalistes au sens
étroit du terme.
Étroit et métaphysique du mot. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que pour que ça œuvre quoi que ce soit, je ne parle pas simplement d'œuvres artistiques ou même scientifiques ou philosophiques, même, je parlerai par exemple d'œuvres politiques, hein, parce qu'il y a des œuvres politiques. Pour que ça œuvre, il faut qu'il y ait ce moment-là. Bon. Ce moment qui peut aussi très très mal tourner par ailleurs, hein. Bon, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, d'une certaine manière, on vit un peu de trucs comme ça. Maintenant, ça n'œuvre que dans l'après-coup. Autrement dit, ce qui est toujours intéressant, c'est comment, dans l'après-coup, cette synthèse va donner ce que j'appelle de l'analyse. Bon, autrement dit, alors, du côté de l'artiste, lui, il travaille exactement à l'inverse. Il travaille du côté de l'analyse, en pariant que ça produira de la synthèse. Est-ce que ça en produit sur lui ou pas, d'ailleurs? Je crois que c'est une autre question. Et moi, je pense qu'il ne sait jamais si ça en produit vraiment. En tout cas, c'est une conviction que j'ai retirée d'avoir discuté avec un certain nombre de cinéastes, parce que chez les cinéastes, ce qui est très intéressant, le cinéma, qui est une grammatisation extrêmement contraignante, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est absolument analytique. Si on va sur un plateau de cinéma, on voit que c'est très très analytique, puisqu'il faut prévoir... Et en même temps, les décisions qui se prennent dans le processus, que ce soit un tournage qui dure un mois, une semaine ou un an, ce sont des moments, c'est Fellini qui parlait de ça très très bien, où il faut que celui qui est ce qu'on appelle le directeur, le régisseur en allemand, c'est celui qui va à un moment donné trancher en disant ça synthétisera comme ça. Et là, c'est plus de l'analyse, c'est de l'agencement. Et c'est une façon. Bon. Alors, je suis bien entendu d'accord avec toi, je veux dire, l'association, c'est toujours de la dissociation. Mais ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que la temporisation, c'est toujours de la spatialisation. Quand on raisonne. Dans des termes hypomnésiques, qui dit spatialisation dit forcément décomposition, analyse, donc dissociation. Mais après, le problème, c'est comment on négocie entre ces deux.
Oui, non, c'est une question très importante, puisqu'au fond, l'enjeu, c'est quand même de comprendre comment de la médiateté peut faire de l'immédiat. Et comment précisément. C'est-à-dire, le rapport aux médias fabrique de l'immédiat, de cette façon. L'expérience de la médiateté, parce qu'on a affaire à ça dans les mémoires matérialisées. Hein. On a affaire à de l'hyper-médiatisé, d'une certaine façon. Et au fond, dans l'art, aujourd'hui, on a quasiment pu affaire qu'à ça, hein, c'est-à-dire à des dispositifs qui sont hyper-médiatisés, précisément parce qu'ils travaillent à partir de ces objets mémoriels techniques ou industriels. Et la question, c'est de savoir, c'est de savoir d'une part ce qui a lieu, hein, c'est-à-dire le type d'expérience qu'il est possible de faire de ces œuvres, mais aussi de comprendre pourquoi c'est possible, hein, pourquoi finalement ces objets hyper médiatisés peuvent donner lieu à une expérience. Qui effectivement est de l'ordre de l'expérience, hein, c'est-à-dire effectivement, c'est-à-dire de l'appréhension d'une extériorité sous la forme d'une immédiateté. Voilà, c'est ça. À mon avis, c'est une chose qui est importante si on essaie de réfléchir à la fois la production et la réception, hein, dans un même même geste.
Sachant qu'il peut y avoir de l'immédiateté catastrophique.
Ah mais oui, mais tout à fait. Hein, mais il n'y a pas de raison. Mais non, moi non plus. Voilà, on est d'accord. je suppose qu'il y a peut-être d'autres questions.
Oui, moi j'aurais peut-être une remarque.
Alors.
Mais c'est pas une vraie grande question.
C'est Florent là. À Bernard, quand tu décris l'individuation et la transindividuation, il revient comme un leitmotiv le terme de processus. Processus, c'est d'abord un terme qui est un outil de description. Ça permet de décrire des choses. Et comme tel, il a pas de valeur ni négative ni positive. Or, dans ta façon de parler, il revient de telle sorte qu'on en saisit l'intention d'en faire une valeur. Parce que je pense que tu l'opposes à l'identité. Tu vois ? Quand tu dis quand tu dis que l'individualisation a un terme qui consiste à fabriquer de l'identité, tu dis inversement l'individuation est un processus.
Mais il y a aussi des postures de désinformation.
Oui. Oui, oui, oui.
Excuse-moi.
Non, mais en fait, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que, au fond, pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est que tu penses, mais qui n'est pas expliqué, enfin, qui reste un implicite ? Parce que je me demande si ce n'est pas un truc dont on hérite comme un mot mana, cette affaire de processus, c'est-à-dire comme une espèce de valorisation du mouvement. Qui pour le coup peut-être nous viendrait du romantisme en fait. Et
oui, je vois très bien.
C'est pas une objection. C'est
oui. Je vois très bien, mais je suis pas d'accord parce que
autant si tu veux il y a du processus dans le romantisme. En effet, ça s'appelle pas comme ça, mais on est à fond là-dedans. Quoi. On est dans le mouvement de l'histoire, etc. Certes, tout à fait d'accord. Là, le mot de processus. Alors là, pour le coup, je le tiens vraiment de Simonon. Même si le premier qui l'a employé et que j'ai repris à mon compte, c'est le roi Gourand. Le roi Gourand, ça fait 30 ans que je le lis. Simonon, ça ne fait que 10 ans. Enfin, non, 10 ans, peut-être plus, mais 20 ans. Puisque le roi Gourand parle de processus d'extériorisation. Chez le roi Gourand, ça reste, à mon avis, relativement vague. Chez Simonon, c'est extrêmement précis. Chez Simonon, alors lui, il appelle ça une ontogénétique. Hein. Moi, je me méfie parce que moi, l'ontos, ça m'emmerde. Même si on rajoute génétique, l'être ne m'intéresse pas. Voilà. C'est vraiment. Je suis plus radical que Simonon par rapport à tout ça. C'est le devenir qui m'intéresse. Alors, quand je dis l'être ne m'intéresse pas, évidemment, c'est idiot. Hein, mais je veux dire, la genèse de l'être ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le devenir. Chez Simondon, donc, ce concept de processus, il vient véritablement d'une pensée de la cristallographie. Il faut savoir, alors ça, c'est des éléments de biographie de Simondon, Madame Simondon est cristallographe. Et Simondon a fait ses études avec Madame Simondon à l'école normale, etc. Et donc, il a étudié la philosophie pendant que sa femme étudiait la cristallographie. Et comme il était un type passionné de tout, il a étudié la cristallographie avec sa femme. Et finalement, il est devenu physicien. Et il a trouvé dans les modèles de la physique, et surtout après de la physique quantique, il a trouvé des questions qui bouleversaient radicalement la question du substantialisme, de l'idémorphisme, la question leibnizienne, etc. Et c'est pas du bricolage, je peux te dire, ça faut le lire de près, c'est extrêmement solide. Donc c'est pas un mot qui arrive comme ça. Il se trouve qu'ensuite, parce qu'il a aussi beaucoup lu Heidegger, il a aussi beaucoup lu les psychanalystes, etc. Mal, à mon avis, il a très mal lu les psychanalystes. Ça, c'est là que ça déconne vraiment à plein tube, Simondon. Mais Simondon, par contre, il a lu les phénologues et tout ça. Et il a pris il a repris tout à fait à son compte, par exemple, ce que Heidegger décrit comme l'être pour la mort, bon, et le caractère absolument interminable donc de l'existence. Et qui est chez Heidegger une question très formelle. C'est-à-dire, on peut l'apprendre au sens très romantique, dans le sens où souvent Heidegger est lu, mais on peut l'apprendre au sens kantien. C'est-à-dire que n'y a pas d'unité de la perception du sujet transcendantal. C'est tout simplement ça, hein, l'être pour la mort. Enfin, c'est pas tout simplement ça, mais bon, c'est très formel. C'est de l'ontologique formelle. Chez Simondon, le concept de processus, il marche sur ce registre-là, mais en passant par la physique. Voilà. Donc je pense que c'est un mot, c'est pas un mot comme ça, hasardeux ou très très. Et il n'est pas du tout romantique, chez Simondon, pas du tout. Je crois pas.
Hein. On s'aperçoit qu'on est en. On est dans des terminologies, c'est un peu ce que j'essayais d'analyser à propos de Foucault, bon, ce que tu dis quand tu parles de l'ontologique, hein, et puis vous dites que c'est romantique, Bernard dit c'est ontologique, on s'aperçoit que, en fait, la tradition du XXe siècle est vraiment, elle est tramée hein, avec deux fils, hein, c'est-à-dire un fil qui est transcendantal et un fil romantique, et très souvent ces fils se confondent. Hein. Et chez Deleuze, par exemple, hein, c'est le grand problème de la lecture de Deleuze. Hein. Et pourtant, je crois qu'il faut prendre une décision par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est important de savoir de quel côté on est, hein, terminologiquement. Voilà. Enfin, c'est pour ça que c'était intéressant de. Sans des problèmes, tout à fait. Non, mais tout à fait. On va donc lever la séance pendant 10 minutes. Merci. On va lever la séance pendant 10 minutes et on recommence vraiment dans 10 minutes, hein, c'est-à-dire pas à 20. mais vraiment 10 pour avoir le temps de converser un peu avec Gabriel et ensuite avec Marie sur Pierre Huyghe. Voilà, merci Bernard, hein, d'avoir